Vous avez bien une anecdote à nous raconter.
Ah oui, je vais vous raconter.
Philippe Moreau de Farge rouvre les portes de la nuit.
Cette chanson, à l'origine, n'était pas une chanson. C'était le leitmotiv de Rendez-vous. Ce Rendez-vous, c'est le ballet que Roland Petit a créé. Le sujet, c'était un couple de très jeunes qui ça s'appelait Les enfants qui s'aiment.
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit.
Et les passants qui passent, c'était Joseph Kosma, les désigne du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Du film Les portes de la nuit, la mémoire a retenu cet air qui en était le leitmotiv. Et plus encore, une chanson qui y était à peine esquissée, mais qui est devenue l'une des plus reprises dans le monde, Les Feuilles Mortes. Dans un premier temps, Carné et Prévert avaient prévu pour les rôles principaux Gabin et Marlène. La Grande, parmi mille motifs pour se dédire, avait mis en avant celui-ci « Cette chanson ne marchera jamais ». Et au même moment, Gabin s'était retiré pareillement. Imaginez pour un couple qui, dans la vie, représentait alors la gloire et la victoire, le film a-t-il été taillé ensuite trop large pour les deux jeunes acteurs qui furent finalement choisis comme remplaçants, Nathalie Lathier et Yves Montand. C'est ce qu'on dit paresseusement pour expliquer l'échec commercial à la sortie en 1946. En réalité, le rôle de la vedette était fort bien tenu par le décor. Signé Alexandre Trauner, il figurait un Paris lugubre, celui de la fin de la guerre et des lendemains de la libération. Peut-être les Français qui n'avaient jamais autant manqué de tout avaient-ils peu envie de le voir de si près, tout en apprenant que sa construction, en période de restriction, avait coûté si cher. Les Portes de la Nuit, c'est en tout cas l'esthétique d'avant-guerre qui se prolonge après. Et en matière politique, l'époque en revanche attendait le noir et blanc. Les résistants d'un côté, les occupants de l'autre. Et voilà que Carné, et surtout Prévert, il n'avait pas eu exactement le même comportement pendant la guerre, présente une palette contrastée. Les rôles des pétinistes et des collaborationnistes sont plus importants, plus fouillés que dans les autres films de l'après-libération. Esthétiquement, Les Portes de la Nuit s'ouvraient à contre-temps, et politiquement aussi.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec, et c'est inattendu, Philippe Moreau de Farge, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qu'on connaît comme un éminent spécialiste des questions internationales. 8e édition, je devrais dire 9e édition, complètement retournée, refaite de vos relations internationales. Seuil, point. Oui, mais vous êtes un vieux cinéphile.
Oui.
J'allais dire un vieux MacMahonien. MacMahonien, dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire de la cinéphilie, c'est un peu à droite. Hein.
Oui, c'est un peu à droite. C'est un cinéma de l'avenue MacMahon, près de l'Étoile, qui ne projetait à une époque que des films américains. Et les MacMahoniens ont produit des gens remarquables. Et il y a quelqu'un dont on parle en ce moment, c'est Barbet Schroeder. Barbet Schroeder était un MacMahonien. Moi, je me souviens avoir croisé Barbet Schroeder dans les années 60. Il avait amené Fritz Lang, venu présenter Les Mille Yeux du Docteur Mabuse, qui était pas un des meilleurs films de Fritz Lang. Mais le MacMahon, c'était un temple du cinéma avec des cinéastes un peu inconnus comme Joseph Losey, Fritz Lang, etc. et Otto Preminger.
Mais c'était vous avez revu récemment Les Portes de la Nuit.
Oui.
Et vous avez trouvé une définition qui, oui, en trois mots, oui, dit bien le projet de cette émission.
C'est une définition de François Truffaut. François Truffaut disait « Il y a des grands films malades ». Il évoquait un film d'Hitchcock, « Les Amants du Capricorne ». Les Portes de la Nuit, c'est un grand film malade. C'est-à-dire un très beau film, très intéressant, qui parle beaucoup, mais effectivement, il n'est pas très réussi, et il y a beaucoup de choses qui peuvent étonner dans ce film, notamment le fait que ni Dietrich, ni Gabin n'aient tourné ce film,
alors,
qui a été une chance pour ce film.
Ah bon, dans ce Paris de la fin de la guerre, oui, on attendait Marlène et Gabin, qui étaient des combattants. La Deuxième Guerre mondiale, et puis qui se sont dédiés. Et c'est, vous dites, une chance pour
mais oui,
le film.
Parce que on voulait deux choses. Attendez, Dietrich et Gabin sont des êtres mûrs. Ils ont au moins 40 ans. Or, il faut des êtres jeunes. Et Yves Montand et Nathalie Nazier sont jeunes. C'est très important. Deuxièmement, je rappelle que ni Gabin ni Dietrich n'ont vécu l'occupation. Il fallait aussi des acteurs qui aient vécu l'occupation, qui aient la, comment dire, la chair, la substance de l'occupation. Et de ce point de vue-là, le retrait de Marlène Dietrich et le désistement de Gabin a été une formula de chance de ce film. Ce film aurait été ridicule avec ces deux acteurs. La fameuse rencontre.
La rencontre, on la raconte tout à l'heure. Il faut qu'on entre peu à peu dans le décor. Alors, il faut insister sur le décor.
Oui, exactement.
Alexandre Troner a reconstruit le studio de Joinville, oui, la station Barbès-Rochechouart. Un des motifs, d'ailleurs, c'était qu'on n'aurait pas pu utiliser la station. Oui. Si Marlène et Gabin avaient été là, ça aurait été l'émeute.
Exactement, tout à fait.
Alors, non, le décor.
D'abord, le décor, vous l'avez évoqué vous-même, le décor, nous sommes dans une époque où on fait des films en décor. Les films tournés en décor naturel, ça date de la Nouvelle Vague. Mais avant, on fait des décors, et on aime les décors. Première
raison. René Clément, la même année, c'est un décor naturel.
Oui, disons, René Clément est un jeune, un innovateur. Première raison. La deuxième raison, c'est que Barbès-Rochechouart, c'est l'une des grandes stations de métro de Paris. Elle a quelque chose de spectaculaire avec ce côté métro aérien. Et du coup, c'est le cœur de Paris. Donc il fallait, c'est pas seulement la station Barbès-Rochechouart, c'est le quartier Barbès-Rochechouart qui est rendu magnifiquement d'ailleurs en film, ce quartier sombre avec quelques petits bars, quelques petits cafés encore allumés. C'est de ce point de vue-là, le film est magnifique.
Avec des traits caractéristiques du réalisme poétique d'avant-guerre.
Exactement.
Et aussi, Carnet utilise le mot, c'était pas nécessairement à la mode en 1945-46, des traits d'expressionnisme allemand.
Oui, parce que d'abord, l'expressionnisme allemand est un très grand courant, et que d'ailleurs, Troner a été modelé par, et tout le monde a été modelé par les expressionnistes. La tragédie de l'expressionnisme allemand, c'est la venue au pouvoir d'Hitler. C'est-à-dire que tous les grands expressionnistes allemands sont partis pour Hollywood. Prenez Fritz Lang, prenez Preminger, et donc, c'était un expressionnisme qui, au fond, montrait, si vous voulez, le sombre de la vie. Le grand film, l'un des très grands films expressionnistes, c'est M. le Maudit de Fritz Lang. C'est-à-dire ce mélange de la police et des bas-fonds, cet être qui est un être extrêmement dangereux et qui en même temps est maudit, c'est ça l'expressionnisme. Et de ce point de vue, Les Portes de la Nuit sont bien un film expressionniste.
Carnet, c'est un homme du contre-temps et c'est un homme de l'intemporel. Oui. Et il disait, j'ai pas envie de faire un film politique. Et dans ses mémoires, La vie à belles dents, il se plaint du fait que Prévert, il y a un commencement de divergence entre eux, ait voulu absolument introduire des personnages de la Résistance, par exemple. T'en étais, toi, de la Résistance, lui demande Carnet. Prévert était un peu plus résistant que Carnet, quand même.
Tout à fait. Mais si vous voulez, je pense que Prévert voulait raconter la France de l'occupation et d'après l'occupation. Et moi, j'ai une autre image de Prévert à travers son rapport avec Arletty. Lorsque Arletty tombe amoureux de son officier allemand sous l'occupation, Arletty a une longue liaison avec un officier allemand qui était, semble-t-il, l'amour de sa vie. Elle est enceinte de cet officier allemand et elle va tourner Les Enfants du Paradis. Elle tourne Les Enfants du Paradis enceinte. Elle va avorter à l'époque du tournage des Enfants du Paradis. Et Prévert est là. Et Prévert la comprend. Prévert la soutient. Il ne la juge pas. Vous savez, on était dans une époque dure. Et elle est là, il l'accompagne. Et c'est là où je me suis dit, cet homme, il est quand même intéressant. Quelque part, c'est un type bien.
Alors Arletty est hors jeu, elle est en résidence surveillée au moment du tournage des Portes de la Nuit. Soit donc un duo de résistants, Jean Diego, Yves Montand, qui a remplacé Gabin. Il vient expliquer à la femme de Raymond L'Écuyer que celui-ci est mort.
Oui.
Et voilà que Raymond Bussière, un ancien du groupe Octobre, explique « Non, mais je suis bel et bien là ».
Mais comment ça se fait que tu sois là, en chair et en os, tout entier?
Mais j'ai eu de la chance, c'est tout. Les frisés nous emmenaient, oh. Tu connais le tarif, 12 balles 50. Quand tout d'un coup, un miracle, des anges qui tombent du ciel. L'inspecteur Constantini et sa suite. Supplément d'information. Les vaches. Ah, t'es vraiment pas verni, tu m'ont dit. Quand on pense que si on n'était pas arrivé, t'aurais pu mourir peinard. Hein? Alors on a remis ça, mais la belle vie, le palace.
L'avenue Henri Martin.
C'est ça, tout le confort moderne, quoi. Massage facial, hydrothérapie, manucure.
T'as été donné, Pierrot. Et par quelqu'un qui te connaissait bien.
Ça fait tout de même plaisir d'avoir des amis.
C'est quand même étrange, hein, l'humour de Prévert qui s'applique à la description de la situation qui est très bien localisée. Constantini, c'est un chef particulièrement détesté de la collaboration. L'avenue Henri Martin, c'est la rue Lauriston, tout aussi bien. Exactement. Et donc, baignoire dans un hôtel 3 étoiles. Oui, c'est traité comme ça.
Oui, je pense que, si vous voulez, Prévert va faire un film. Le film est très sombre. Le film va être une espèce de descente aux enfers. Donc, ce film s'ouvre par un moment de vie. Et ce vie, c'est les deux copains qui se retrouvent. Et je pense que Prévert a voulu un peu. Enfin, Prévert et Carnet ont voulu. Enfin, surtout Prévert ont voulu un peu masquer ça par cette ouverture de. Un peu. Oui, c'est de l'humour, c'est aussi un peu Boy Scout. Comme, c'est-à-dire, tout d'un coup, on traite la torture avec désinvolture. Bon, très bien.
Mais
attendez, n'oubliez pas que c'est une époque, on ne veut pas trop parler de tout ça. On veut pas trop parler de tout ça.
Yves Montand, Diego, lui, quand il voit le sort qu'il a fait, a été fait avec Raymond, qui revient des tortures avec une main abîmée, il a envie de mettre son poing sur la gueule des adversaires.
Tout à fait. Il est là, lui, si vous voulez... On va voir le film, mais Diego, c'est le personnage positif, c'est le héros positif, c'est le type bien, c'est le type formidable. Et puis le film va révéler autre chose, mais on voit bien que au fond il fallait montrer en avant. Vous voyez, là aussi, le problème du film, c'est que je pense que Prévert a semé un message qu'il ne fallait pas lire. Et on va le découvrir peu à peu. Il y a un message extrêmement complexe que Prévert ne pouvait pas dire ouvertement en 1946. Mais il est là, dans ce... c'est là où le film est merveilleux, c'est cette espèce de descente vers un secret.
D'autant que les ressorts du réalisme poétique sont encore utilisés.
Tout à fait.
Avec notamment le personnage qui observe tout le quartier.
Oui.
Sous la figure d'un clochard. C'est un débutant, lui aussi, au cinéma, du moins. Il s'est révélé pendant l'occupation sur les scènes de théâtre. C'est Jean Villard lui-même, dans Le Destin, donc.
Le Destin, c'est moi.
Ben voyons.
Et pourtant, chacun a son histoire. Toi comme les autres. Et comme les autres, tu ne sais pas comment elle finira, ton histoire.
Bien sûr, c'est une surprise.
Oui, une surprise.
C'est pas tout ça, mais j'aimerais pas rater le métro. Quelle heure as-tu?
11h10 exactement.
L'horloge parlante maintenant.
Crois-moi, tu ferais bien de te dépêcher. Tu n'as pas une minute à perdre.
Écoute, t'es bien gentil, mais tu commences à être fatigant. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux?
Je ne veux rien. Je suis le destin. Je suis le destin. Je vais, je viens. C'est tout.
Et votre propre lecture, Philippe, alors, la Farge du destin.
La première fois que j'ai vu le film, je n'ai rien compris. Si vous voulez, je voyais le destin avec le visage grec, vous savez, ce personnage solennel qui est là, qui dit que la vie des individus. Là, ce que j'ai découvert, c'est un personnage sarcastique. C'est-à-dire, au début, d'ailleurs, le destin se présente comme tout puissant. Je dis aux hommes ce qu'ils veulent. Et puis, à la fin, il avoue qu'il est totalement impuissant. Il donne des conseils aux hommes et les hommes font exactement le contraire. Il dit, donc c'est un destin sarcastique. Et c'est là où le film est magnifique. C'est que la Villard donne une image du destin très intéressante. Alors, de même, dans cette scène, on voit Diego. Qui est très vite agressif, hein. C'est un personnage agressif.
Je sais que vous le considérez comme un peu brutal.
Voilà.
Vous allez cesser de le dire.
Voilà,
mais il va savoir se montrer doux, parce que le destin a annoncé à Diego, Yves Montand, qu'il allait rencontrer la plus belle fille du monde. Alors la plus belle fille du monde, c'est Nathalie Nattier. Ils vont fredonner et danser ensemble les feuilles mortes.
Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli.
Comment connaissez-vous cette chanson?
Je la connais depuis longtemps.
Depuis longtemps?
Quand j'étais petite, devant la palissade de ce chantier, un musicien ambulant venait parfois jouer cette valse.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Les feuilles mortes, c'est la trace la plus vivante du film Les Portes de la Nuit que Philippe Moreau de Farge nous fait relire aujourd'hui. La créatrice au disque de la chanson, Martin Penner raconte ça dans son livre qu'il lui a consacré, c'est Cora Vauquer, en janvier 1948. Cosma lui a montré cette chanson bancale, pour laquelle elle a eu tout de suite le coup de foudre. Montand, lui, quand il veut la chanter dans ses tours de chant, hésite, pense que le public ne réagit pas si positivement que ça, ne l'enregistre qu'en mai 49, et dès 49 d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Dany Dauberson, René Lebas, Catherine Sauvage, Jacqueline François, Marjane, Annie Gould, avant Edith Piaf, qui enregistrent les feuilles mortes. Il gardera un mauvais souvenir d'ailleurs du film, Yves Montand.
Oui.
Non, mais il ne se juge pas assez mûr pour avoir joué ce rôle.
Il n'est pas sympathique dans le film.
Mais non, ça vous l'avez déjà dit.
On va y revenir, mais si vous voulez, il n'est pas sympathique. Il casse la gueule et même à la fin, il est un peu responsable de la mort de la femme qu'il aime. C'est Pierre Brasseur qui tire le coup de revolver, mais il est quand même très responsable.
Tenez, Pierre Brasseur. Pierre Brasseur. Il n'a pas connu la guerre, lui, le personnage qu'interprète Pierre Brasseur, il ne l'a pas connu de la guerre de l'intérieur.
Exactement. L'une des clés du film, qui est très discrètement, il y a deux plans qui montrent la voiture de Pierre Brasseur. Donc, Pierre Brasseur, le couple, a une voiture à Paris en 46. Quand même, il faut le faire.
Oui, parce que j'ai oublié de dire que Brasseur, c'était le mari de Nathalie Nattier, qu'elle a quitté. Oui.
Donc, on voit tout de suite, ils viennent d'Angleterre. La plaque minéralogique, c'est GB, c'est Grande-Bretagne. Donc ce sont des gens qui viennent de Londres. Et il y a une scène, une dispute entre Nathalie Nattier et Pierre Brasseur dans lequel ils évoquent leur rapport très difficile à Londres. Donc en fait, Pierre Brasseur, c'est un gaulliste. C'est pas du tout un collaborationniste, c'est un gaulliste.
Alors, elle l'a quitté, Nathalie Nattier. Il est hors course, peut-être parce qu'il était à Londres. Et il voit de loin la scène du baiser. Celle qu'on évoquait au moment des feuilles mortes. Il raconte le tournage, sous la direction de Carnet, de cette scène dans une émission bien connue, La joie de vivre, où le public a déjà le don de s'esclaffer régulièrement, comme dans les spectacles télévisuels d'aujourd'hui.
Ben voilà comment ça se passe. Il y avait Mme Nathalie Nattier, qui était la plus belle femme du monde dans le film. Alors, attends, toi, tu jouais le jeune premier. Ça, c'est la caméra. Voilà, ça. Il y a Carnet qui est là. Hé, Carnet ! Il est là, oui. Carnet, c'est le metteur en scène. Et moi, j'arrive comme une noix, très digne. Je sors de la voiture, j'ai un revolver, naturellement. Et ils sont là, tous les deux, ils vont s'embrasser, et je dois crier « Malou !» Et à ce moment-là, ils me voient tous les deux. Mais alors voilà, parce qu'avec Carnet, c'est jamais simple. Il y avait un train qui était passé quelques minutes avant. Alors, forcément, du moment qu'il y a un train qui est passé, il y avait un petit peu de fumée. Et la petite fumée devait passer juste au ras. Carnet était là, derrière la caméra. Il guettait la petite fumée au-dessus de la tête de mon père. Et quand il voyait la petite fumée, tout le monde se taisait, c'était épouvantable, un silence religieux. Et il faisait « Partez !» Et moi, je faisais « Malou !» Bon. Alors, ça y est. Bon, c'est raté. Bon, on recommence. Tout d'un coup, ça y est. Elle est là, la petite fumée. Et il fait Malou, je suis parti.
Parce qu'on dit c'est un film raté, c'est un film bancal. Enfin,
non, c'est un film.
Les acteurs, les seconds rôles, Brasseur, et puis pas seulement lui.
Non, mais attendez, à l'égard de Carnet, on est très, très injuste. Les acteurs sont magnifiques. Mais il y a un autre film que j'aurais évoqué avec toi, Les Tricheurs, des années, qui a été démoli par la critique. Il a découvert Laurent Terzieff, Pascal Petit, Jacques Charrier, Jean-Paul Melmondo.
Oui, mais alors ça, c'est le Carnet précurseur. Ouais. Là, il utilise quand même des seconds rôles. Ouais. Je veux parler de Saturnin Fabre et de Julien Carrette, qui étaient Les merveilles des merveilles dès l'avant-guerre.
Mais exactement, exactement.
Alors nous sommes dans un immeuble composé pour une bonne part de taudis. Mmh. Et plus on est pauvre, plus on habite en haut. Mmh. C'est qu'en haut, on est proche du ciel. Et se croisent dans l'escalier deux personnages. Julien Carrette, c'est Quinquina. Oui. Prix Cognac J. Hein, la famille a combien d'enfants? 10, 15
enfin, c'est la bonne famille vichiste qui fait des enfants.
Oui. Et puis... le propriétaire, c'est Sénéchal. Sénéchal, nous voilà.
Ouais, exactement.
Et alors lui, c'est Saturnin Fabre. Okay, complètement halluciné.
Comment ça? Merveilleux, parce qu'il est une caricature, il aime être une caricature, il joue à la caricature. Il est remarquable dans ce rôle de vieux salopard.
Ils évoquent, parce qu'ils sont un peu en conflit, leur comportement mutuel pendant l'occupation.
J'en connais qui n'ont pas attendu la fin de la guerre pour faire des affaires, hein? Avec les touristes. Même habillés en vert.
Je ne permettrai pas.
Parfaitement! Par camion qu'ils arrivaient, les touristes, pour enlever la marchandise, les antiquités.
Et le reste, personne n'a jamais su ce que c'était.
Allez, allez, c'est pas pour rien qu'on vous appelle l'ami Fritz dans le quartier.
Madame, je vous intime l'ordre de vous taire.
L'ordre? L'ordre à nouveau, peut-être.
Et c'est pour rien aussi qu'on vous a embarqué à Drancy, à la Libération.
Je vous préviens que si vous ne faites pas taire votre femme, je vous poursuis tous les deux en diffamation.
Bravo! Voilà qui est parlé. Faites-vous respecter, monsieur Sénéchal. Si votre fils était là, il crierait un peu moins fort, moi je vous le dis. Vous oubliez que le fils de monsieur Sénéchal s'est conduit en héros. Vous entendez? En héros!
En héros! Et après? De nos jours, ça court les rues, les héros.
Ah, Pierre, c'est pas une raison parce que le fils est un héros pour qu'on porte le père en triomphe.
Jolie mentalité.
Oui, quelle époque! Il n'y a plus rien, plus de morale, plus d'idéal.
Mais à l'époque, dans les autres films qui traitaient de la résistance, on voyait pas beaucoup de collaborationnistes.
Non.
Le père tranquille avec Noël Noël, c'est le père tranquille contre les Allemands. La bataille du rail de René Clément, ce sont les résistants contre les Allemands.
Exactement. Oui, non, on les montre pas parce que ce sont des salopards. Et puis la France, elle est tout du côté de la résistance. Et c'est vrai que le film était assez audacieux de montrer ces personnages comme des êtres humains. Car au fond, ce que décrit Carrette et ce que sont Carrette et Saturnin Fabre, ce sont ceux qui ont vécu sous l'occupation et qui ont essayé de survivre, de marchander, de faire soit du marché noir, des trucs. Peut-être qu'Aquina n'est pas aussi parfait que ça. En fait, Aquina, il a survécu en faisant des enfants, c'est-à-dire en bénéficiant des allocations familiales du maréchal.
Ah bah, c'est une manière de voir les choses, Philippe Moreau de Forges. Moi, je trouve quand même que Sénéchal nous voilà, il est un peu abject,
oui,
plus que Aquina.
Il est abject.
Alors, il a la moustache, il a le béret, c'est super du bon.
Oui, c'est super du bon. Puis il y a une scène terrible où sa compagne, il découvre que sa fille, donc Malou a de l'argent et il vole plus ou moins son argent. Enfin, il en profite, il la manipule pour lui obtenir son argent. Non, le personnage.
Ah, parce que Malou, on l'a pas dit, c'est la fille de Sénéchal.
Ah ouais, c'est la fille de Sénéchal. Et Malou, il faudra dire à un moment donné qui c'est Malou.
Oui, mais tout à l'heure. Parce que qui c'est le fils? Alors, qui est interprété par Serge Reggiani et qui est présenté là, dans ce premier dialogue comme un héros. C'est pas franchement un héros.
Non.
Guy Sénéchal.
Guy Sénéchal, il a travaillé pour la police allemande, pour les collaborateurs. C'est un collaborateur. Et il y a une scène terrible où Diego, joué par Yves Montand, et Guy, joué par Serge Reggiani, se rencontrent dans un restaurant et ils découvrent que la réalité. Et c'est vrai que Serge Reggiani a été de ces collaborationnistes ignobles qui ont torturé avec les Allemands.
Alors, une fois que cette découverte est faite par Raymond, qui a été dénoncé par Guy, qui a la main abîmée après les séances de torture dans le palace de la rue Lauriston, et par Diego... Comment est-ce qu'ils vont régler leur compte, tous les trois?
C'est lui qui t'a donné.
Y a pas de preuve.
Et puis d'abord, je suis couvert.
Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Eh ben, mon petit bonhomme, je me doutais bien que tu m'avais à la bonne. Mais à ce point-là...
Écoute,
tu me fais mal au cœur. Tu sais dans quel état ils m'ont mis là-bas. Mais c'est pas seulement à ça que je pense. C'est aux autres, aux camarades qui, eux, y sont restés. C'est dégueulasse, mon petit. Tout ce qui est le plus dégueulasse, moi, je te le dis.
Tais-toi.
Sois tranquille. J'ai rien à ajouter. Et ma main. Tu vois ma main abîmée? Si je te la foutais sur la gueule, ça me ferait même pas plaisir.
Ah non, mais c'est pas difficile, ça. Vous êtes deux.
Toi aussi, t'es deux. Puisque t'as joué le double jeu.
Il a toujours le même humour, vraiment.
Oui.
Et il laisse partir.
Oui, parce que ce sont des types bien. Mais je voudrais rendre hommage...
Ce sont des types bien, mais vous dites que Diego, il est brutal. Diego, il n'a pas envie de nouveau non, lui mettre que, le poing dans la gueule.
Ils sont quand même dans un restaurant, et je pense qu'ils, dans leur idée, je pense que c'est dans l'idée de Prévert, le personnage, et ce qui va se passer, de Guy, de Serge Reggiani, va s'auto-détruire lui-même. Moi, je voudrais rendre hommage à Serge Reggiani, cet acteur qui joue un rôle épouvantable. Ce rôle est épouvantable. Et à la fin, c'est vrai. Et c'est là où le départ de Prévert est. À la fin, c'est quelque part un héros. Parce que, souvenez-vous de la fin, il a tout compris, il a compris l'horreur qu'il a commise, et il se suicide en se jetant sous un train. Et là, on voit...
Allez, vous avez donc dit que c'est le collaborationniste de la délateur qui était le héros.
Quelque part, oui. Quelque part, oui, c'est très, très étonnant. C'est-à-dire, il devient le héros en se jetant sous le train. C'est-à-dire, au fond, lui va jusqu'au bout de son destin. Si vous voulez, malgré tout, Yves Montand, Diego, tue la femme qu'il aime. Lui, Reggiani Guy a fait l'horreur. Il assume cette horreur. Il est véritablement seul qui va subir cette horreur.
Alors, continuez votre démonstration dans le retournement, là, des situations apparentes. Diego, Yves Montand, c'est un salaud, un brute.
Alors, non.
Vous avez dit que c'était une brute.
Non, c'est pas un salaud. C'est une brute. Et il y a deux scènes très significatif. Il y a la première scène où on le voit avec Guy, où il essaie de lui casser la gueule, il arrête. Mais la scène la plus importante, c'est quand il rencontre le destin, une deuxième fois. Il la rencontre une première fois, à la fin. Et le destin lui dit ce qui va lui arriver. Et il casse la gueule du destin. Il le prend, il lui casse la gueule. Et Malou, Nathalie Gattier, la femme, l'amante de Diego, lui dit « Non, tu peux pas faire ça ». Et si vous voulez, il y a quelque chose de terrible de voir cet homme qui va vouloir casser la gueule du destin, vouloir le casser, et qui le jette à terre. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce de volonté de destruction qui fait que non, ce n'est certainement pas un salaud, c'est
mais
plutôt...
Mais il manque de vocabulaire.
Voilà, il manque de vocabulaire.
Et alors Malou, pour vous.
C'est la France.
Pardon?
Malou, c'est la France.
Ah.
C'est la France. C'est-à-dire, on voit bien que le film est construit autour de ces quatre hommes. Le père, le frère, le mari, l'amant. Et Malou, c'est une femme très belle. Une femme souillée. Par l'occupation. Donc c'est une femme dégradée. Or, on voit bien, elle a été finalement manipulée largement par le père, qui est au fond, je ne sais pas, peut-être ça peut être le maréchal Pétain, ou ça peut être les élites de l'époque. Mais, vous savez, elle est aussi manipulée par son mari. C'est-à-dire par les gaullistes. Donc, elle se retrouve face à un frère qui est un sale collabo et face à cet amant. Si vous voulez, cet amant qui va finir par, pas la tuer, mais elle va être tuée par le mari gaulliste et par l'amant résistant. Et à la fin, lorsqu'elle est mourante à l'hôpital, on voit les deux types ne pensent qu'à une chose, c'est ça se bagarre entre eux pour savoir qui est responsable de la mort. Et là, je crois que c'est ce que nous dit Prévert. Il ne peut pas le dire. Il parle de la France, de sa France. Il dit cette belle femme souillée. Attendez, il y a une scène que je voudrais rappeler. La scène de la rencontre entre Diego et Malou, entre Yves Montand et Nathalie Gattier. Elle se déroule dans une espèce de cour où il y a de multiples bustes. Et ces bustes, c'est l'histoire de France. C'est Louis XIV, c'est Vauban. Et je pense que, quelque part, Prévert nous dit, regardez, ils sont dans cette histoire, mais c'est une histoire morte. C'est l'histoire de ce ne sont plus que des bustes.
Prévert, ça, ce sont les intentions que vous lisez chez lui.
Oui.
Carnet disait, ce film a pris une couleur politique que je ne souhaitais pas. Les critiques n'ont pas senti tout ce que vous dites à la relecture, Philippe Moreau de Farge. Ouais. La critique de droite était assez hostile. La critique la plus favorable, c'était Le Libertaire.
Et on le comprend. C'est parce que c'est un film qui est, si vous voulez, par Prévert, qui a une formule à distance. C'est-à-dire tous les personnages sont pris à distance. Et finalement, le personnage peut-être auquel sont identifiés, c'est le destin. Et qu'est-ce qu'il est le destin? Il est sarcastique et impuissant. Il est sarcastique, il observe, il regarde, et je crois que c'était véritablement le testament de Prévert sur l'occupation.
Carnet et Prévert ont collaboré de nouveau, mais leur film sur le bagne des enfants à Belle-Île n'a jamais vu le jour. Et dans le dernier film auquel Prévert a mis la main sous la signature de Carnet, sa signature à lui, n'est pas présente. Ils n'étaient pas si amis que ça, d'ailleurs, peut-être. Ils étaient complémentaires. Mais ce sera un autre débat. On fera revenir pour relire des films de manière originale. Philippe Moreau de Farge. L'émission a été préparée par Franck Olivard, avec Antoine Gomez à la technique, Valérie Astaraï à la réalisation. Et chez vous, dans le club?
Oui, Jean. Charlie Olabo, une BD sur les corps réparés et le caractère des oiseaux. Sujet éclectique.
Dans un instant.